Vous écoutez France Culture.
Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. À l'affiche, une publipapoucité en musique et en chanson. Et après, le pamphlet contre les goûters d'anniversaire des petits, Jacques Jouet.
Quelle catastrophe! Évidemment qu'il va me demander encore une fois d'acheter un cadeau pour le héros de la fête. Un costume de pirate d'eau douce pour lui, qui ne peut tout de même pas se rendre à la fête en costume de ville. Ce serait trop simple.
Et puis, un morceau de choix pour collectionneurs, Doux délire, de Jacques Rouxel, le papa des Shadocks, au micro de Bertrand Jérôme. Ensuite, les manipulations littéraires de Patrice Delbourg sur un poème de Baudelaire.
Bon, les idées, et Dieu sait s'il en avait, et drôlement tordu, Ionesco.
Évidemment.
Les idées, Ionesco.
Ça lui va bien.
Et qu'il faut employer l'appel et les râteaux. L'appel, alors c'est pas celui du 18 juin, bien entendu, mais c'est notre maître à tous ici, Pérec.
Ah. Ensuite, du côté de chez Signe, et viendra le temps des rimes de hasard et de la critique des bourrimés, avec Gérard Mordiga, Lucas Fournier, Odile Conseil et Hervé Le Tellier. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 et après, vous pouvez nous retrouver sur franceculture.com à la page des papous et nous engranger dans vos mémoires portatives durant un an. C'est le podcast, France Culture l'a fait pour vous et c'est cadeau tous les jours. Les papous de Pâques avec leur publipapoucité, composé par Dominique Muller, composé dans tous les sens du terme, dialogue et paroles de chansons sur des airs connus, avec des rôles pour Patrice Caumont, Hervé Le Tellier et nos deux chanteuses Jeanne Carillon et Gabrielle Godard. La fine équipe pour une pub lipapoucité. Musica au piano, Gabrielle.
Chapeau mou, morale dans les genoux. Pour un horoscope au top du top, ne cherchez plus chaussures à votre pied.
La grande forme sans casse-tête, avec haut de forme sur la tête.
Danser, je veux danser avec le roi des claquettes et son top hat. Rien qu'à le voir, je sens qu'on est fait pour se plaire. Moi, Ginger Rogers, et lui, mon Fred Astaire.
Le tuyau de poil de Slash électrise les Guns N' Roses. Le chapelier fou émerveille les Alice et les Miss Parole.
J'ai comme l'impression que ça travaille du chapeau.
Chapeau bas à l'impressionnisme. Caillebotte hausse les calottes. Morisot les taille en biseaux. Degas peint les bords en gras. Renoir remet du noir. Et voilà le travail, passer la monnaie.
C'est pas plutôt des nanas? J'enlève le haut, j'enlève le bas, panorama néné.
Manet mène à tout, à Toulouse et à Lautrec, au four et au moulin, à la goulue, à la galette, du tuyau de poêle à ratapoil.
Le ratapoil sans chapeau claque, on fait valser, 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 cocotte dans les claques, Daumier sculptant mieux qu'un Balzac, et déshonora le vieux réac. Alors dans le charivari, on vit des huit reflets de soie, les républicains de Paris lui trouvaient un je ne sais quoi.
Le haut de forme, le gibus, le claque, le huit reflets, c'est plus qu'un voyage, une épopée, l'odyssée du vice, l'énéide du viril.
Voler, je veux voler avec un beau gentleman en haut de forme. Rien qu'à le voir, je sens qu'on sera deux galopins. Moi son bijou et lui mon Arsène Lupin. Châtier, je veux châtier le crime de Raskolnikov en haut de forme. Rien qu'à lire, je sens qu'il nous faut un whisky. moi sa Mumuse, et lui, mon Dostoïevski.
Être ou ne pas être grand, là est la question en somme.
Sous le haut de forme, énorme, tant qu'il y aura des hommes.
Quand nous porterons le haut de forme en fille, Marilyn Monroe et Marlène Dietrich seront ranimées. Famille tuyau de poils, têtes enflammées, où des convenances se contrefichent. Quand nous porterons l'étoffe qui brille, nous scintillerons dans l'œil d'un aimé. Nous l'emmènerons voir tous ces basiles, ce rat et boudin et les grands manets où vont chapeauter ces messieurs pour saluer les beautés de ces jolies dames avant que les années ne voilent leur corps des seins aux chevilles, ternis les reflets des rêves fanés. Mais le haut de forme, comme son nom l'indique, il pète la forme, debout, haut les cœurs, comme à Hollywood. Les hauts et les bas, quand la vie nous boude, sous le haut chapeau, se transforme en joie. En feutre ou en soie, ou même en viscose, sous un haut de forme, c'est la vie en rose.
Et vive les hautes formes! Si vous n'êtes pas satisfait, si quelque chose vous gêne, que ce soit un trop-plein de cadenas sur les ponts, par exemple, ou les fumeurs de bord de fenêtre, il faut l'écrire et le proclamer, comme le font Dominique Muller et Serge Joncourt, pour prendre deux exemples récents de grogne partagée, c'était au Salon du Livre, ou comme Jacques Bertrand, râleur né, Jacques, ou bien comme Jacques Jouet, qui vient encore ajouter un sujet de mécontentement à son catalogue. À vos pamphlets, sur un sujet qui m'a fait perdre la voix. Jacques Jouet, jamais content, vous êtes contre quoi encore ?
Je suis contre les goûters d'anniversaire des enfants de maternelle. Je n'en peux plus. Cette petite enveloppe de couleurs vives qu'on vous donne à la sortie de l'école discrètement, comme si c'était une photo pornographique, qu'on vous donne d'un air entendu. Vous avez été choisi, vous, ou plutôt votre enfant, qui est une bonne fréquentation pour le mien, a été choisi entre 25 ou 27 enfants contemporains à venir chez nous pour la teuf d'anniversaire de Kevin, de Yasmine ou de Sigourney. Cette petite enveloppe, avec en suscription le prénom de votre enfant à vous, tracé au feutre de couleur complémentaire à celle de l'enveloppe, par un papa ou par une maman qui imite, à la façon éhontée du faussaire malhabile, une écriture de bébé qui ne sait pas encore écrire. Cette petite enveloppe, dis-je, je la redoute. Je préfère encore le catalogue de la redoute, c'est dire. Je redoute surtout que mon fils s'aperçoive que cette petite enveloppe m'a été confiée à moi avant que je puisse la jeter discrètement dans la première corbeille à papier municipale de la rue de la Folie-Méricourt. Je redoute que la rumeur ait déjà gagné toute la classe et que mon fils ait déjà prévu de me gâcher l'un de nos prochains dimanches où je comptais l'emmener à la Cité des Sciences pour voir une passionnante exposition sur l'histoire du bacille de Koch et du tréponème bleu pâle, ou encore à la Cité de l'Histoire de l'Immigration de la Porte Dorée pour voir une non moins passionnante exposition sur les mouvements de population polono-portugaise vers la France pendant les Trente Glorieuses. Je redoute, et je peux bien redouter, évidemment, qu'il est au courant, le bambin, qu'il a été choisi entre 27 ou 29 pour aller voir souffler 5 bougies dont les gouttes de cire vont glisser sur le 4/4 à la confiture Bonne Maman et se retrouver intactes le lendemain dans les selles. Catastrophe. Évidemment qu'il va me demander encore une fois d'acheter un cadeau pour le héros de la fête. Un costume de pirate d'eau douce pour lui, qui ne peut tout de même pas se rendre à la fête en costume de ville. Ce serait trop simple. Évidemment qu'il va annoncer à tout le monde que son anniversaire à lui, c'est le mois prochain. Et que ça va faire deux dimanches foutus au lieu d'un. Le deuxième étant encore plus foutu que le premier, parce qu'il va falloir que j'organise, en plus. Que j'achète des sirops de toutes les couleurs. Et des pochettes surprises. Et Tintin pour l'exposition du Palais de la Découverte sur la maîtrise des grands nombres grâce aux machines à calculer de Blaise Pascal jusqu'à Alan Turing. Pff, c'est vraiment à vous dégoûter de faire des enfants.
Ah, j'ai donné moi aussi.
Sergent Coin, est-ce que vous avez un point de vue sur les goûters d'anniversaire d'enfants de maternelle? Posons bien le débat.
Non, il n'y a certainement pas d'avis.
C'est entre 2 ans et demi et 5 ans et demi. Vous en avez organisé, vous avez assisté, vous êtes qui?
Ah, moi je suis Kevin. Mais...
Ah, le petit Kevin.
Moyenne section F,
oui.
De la Folie-Méricourt.
Ouais.
En fait, bon, bah, moi j'ai 8 ans, mais...
Ah, vous êtes un peu en retard.
Ouais, bah, j'ai redoublé 3 fois, mais enfin... Bon, ouais. Je comprends qu'il soit énervé, le parrain, parce que... Oui, parce que je suis son filleul aussi. Ah. Oui, je suis le copain de son fils. Alors, ce qui ne sait pas, tonton Jouet, oui, parce qu'à la Folie Méricourt, on l'appelle tous tonton Joujou, parce qu'il est vachement sympa. Alors, bon, alors, ce qui ne sait pas, tonton Joujou, c'est qu'en fait, sur les enveloppes, ce n'est pas des imitations d'écriture d'enfants qui invitent à tous ces anniversaires. Ce n'est pas des imitations, non, non. Les écritures, c'est les nôtres. Ah oui, ah, qu'est-ce qu'il est rigolo, tonton Joujou. Qu'est-ce qu'on lui en fait voir? Il faut dire aussi qu'il n'est quand même pas bien malin. Lui qui veut tous les dimanches nous emmener à des expositions sur des chiffres, lui qui est soi-disant un esprit arithmétique figuratif, eh ben, il n'a jamais remarqué que c'était quand même bizarre que sur une classe de 15 élèves, il y avait 75 anniversaires par an. Il est marrant, hein, mais il n'est pas bien malin. Bon, il faut se mettre à notre place. Vu que nous, on ne veut pas aller piétiner tous les dimanches à la Cité des Sciences ou dans des musées où les tableaux ne sont même pas animés, vu qu'on préfère le coca, le champomis et le gâteau à la bougie, eh ben, chacun notre tour, en fait, tous les vendredis, on rédige une fausse lettre d'invitation à un anniversaire. Et ça fait comme ça que depuis janvier, Yasmine fêtera dimanche son 5e anniversaire pour la 8e fois cette année. Alors que moi, ça fait déjà 10 fois que j'ai 7 ans. Depuis janvier. Il ne faut pas lui dire, surtout, hein. Parce qu'en plus, avec près de 12 anniversaires par mois, autant dire que j'ai tellement joué dans la chambre que je ne peux plus rentrer. Hein. Happy birthday, tonton Joujou. C'est comme le Père Noël, il y croit toujours, il ne faudrait pas le décevoir.
Ah non, 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 ce serait trop cruel.
Alors, il y a une nouvelle exposition que...
Ah non. Au secours. Jean-Bernard Puy, vous êtes un papa.
Ah, moi, j'adore les goûters d'anniversaire.
Ah, bah oui, ça m'étonne pas.
J'adore. Je suis un parent d'élèves et je les adore chez moi.
Ah oui.
Et au moins 2 fois par an parce que j'ai 2 enfants. Donc ça, c'est...
Attendez, vous êtes parent d'élèves ou parent aussi d'enfants? Ou uniquement d'élèves?
Les deux en même temps. Ah. Parce que moi, je mets mes enfants à l'école, monsieur. J'ai même accueilli un jour une famille, pour l'amour de leur chenapante, dont l'appartement était en réfection peinture. Alors, ils l'ont fait ça chez moi volontiers. Je leur ai proposé... Ah oui. Et ils en ont profité. Donc j'adore. Car je mets les parents à l'aise tout de suite, je me charge de tout. Ils n'ont qu'à revenir vers 18h ta porte. Et me laisser leurs enfants. Et vu l'énergie constante de leur progéniture, ils ne rechignent pas. Ils font une bise au petit hitlero-sumerilien. Et ils s'enfuient illico, sans même prendre l'ascenseur. Et là, la vengeance commence. Je les ai sous la main, les Kevin, Yasmine et Sigourney. Ils ne seront pas prêts d'oublier ce fameux mercredi après-midi. D'abord, sucrerie et bonbons chimiques à volonté. Il y aura bien une crise de foie dans la soirée. Après, gâteau au chocolat, du genre bien collant, bien mou, et pas de serviette. Ils s'essuieront les mains sur leurs jolis habits, comme mon fils qui montrera l'exemple. Ensuite, jeux divers et contondants, petits marteaux en bois, élastiques, etc. Tout seul, je ne peux pas tout contrôler, hein. Et pendant que j'interdis à Sigourney de taper sur la tête de Yasmine, Kevin pourra s'exprimer sur celle de Gonzague. Quand la majorité sera en pleurs, séance télé, pour calmer tout le monde, avec un bon film d'épouvante, genre double assassinat dans la rue morgue. J'ai testé moi-même il y a longtemps, j'ai pas pu dormir sans cauchemar jusqu'à l'âge de 13 ans.
Après, je leur raconterai une histoire. J'ai un catalogue de nouvelles à vous faire dresser les jolis cheveux bouclés sur la tête. Quand les parents reviendront, leurs enfants, crottés, maculés, morveux, dormiront à moitié. Ils me regarderont d'un drôle d'air, les parents. Mais moi-même, je feindrai l'épuisement en leur confiant que leur progéniture est vraiment éreintante. Et dans l'agitation permanente, qu'on a même oublié d'ouvrir les cadeaux, d'ailleurs ils s'en moquent, alors ils n'ont qu'à les reprendre pour qu'ils s'en servent une autre fois. Le soir, dans l'appartement enfin vide, c'est le calme. Mes enfants dorment, totalement épuisés, mais bizarrement contents. Je ne sais pas encore s'ils me redemanderont l'année prochaine de fêter leur anniversaire. Sans doute que oui, mais avec Pépé et Mémé.
Mais pourquoi tant de haine ?
Bon ben, quand se venge...
Je ne sais pas que le marquis de Sade habitait rue de la Folie Méricourt. Mais...
Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou ? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien. Approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup.
Le cha-cha-cha du loup par Serge Gainsbourg. Morceau de choix pour collectionneurs. Il y a 10 ans déjà, en avril 2004, Bertrand Jérôme, créateur des Papous dans la tête, rendait hommage à Jacques Rouxel. Jacques venait de partir, comme on dit. Bertrand est parti 2 ans plus tard. Et si on écoutait à nouveau et Bertrand et Jacques, deux hommes liés par l'amitié, la complicité et le culte des doux délires. Flashback, Bertrand Jérôme.
Alors, on vient d'apprendre cette semaine le décès du fantastique auteur des Shadocks, Jacques Rouxel. Les Shadocks, une série de dessins animés que l'on n'est pas près d'oublier, avec ce burlesque fou de texte et l'invention si originale du dessin. Toute la presse, la radio, la télévision, cette semaine, ont très largement évoqué le souvenir de cet homme et de son œuvre. Et c'est bien. Jacques Rouxel, avec ses moustaches blondes et son formidable sourire, avait participé il y a longtemps à nos jeux. C'était dans Allegro Manon Tropo, où il avait inventé pour nous l'histoire d'une association, la STIF, Association des sciences et techniques inexactes et philosophiques. Philosophique avec un F, bien sûr. Voici un petit extrait de ses élucubrations, pour le plaisir de réentendre sa voix. Salut Jacques Rouxel. Alors, des sciences inexactes comme ça ?
Oui, inexactes, car le besoin s'en fait sentir, car jusqu'ici, on s'est surtout préoccupé des sciences exactes, ce qui est relativement facile, quand on sait mesurer les choses au millimètre près, la vitesse de la lumière par exemple au millimètre près, c'est assez facile de construire des raisonnements à partir de ça. Hein ? D'un autre côté, vous savez aussi qu'il y a des quantités de choses tenues pour vraies pendant très longtemps, qui sont... en définitive avérée véreuse, comme oui. Je disais la semaine dernière, et par gentillesse, là, je ne citerai personne. N'est-ce pas ? Bon. Sûr, fort oui. De cette expérience, que devons-nous en conclure ? N'est-ce pas ? Nous autres inexacticiens en concluons que le sort de toute chose prétendue vraie est de devenir fausse à plus ou moins brève échéance.
Oui.
Hein? Mmh. Tandis qu'une idée apparemment fausse, ou tout bonnement inexacte, c'est bien le diable, si à un moment ou à un autre, elle ne deviendra pas vraie. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me suivez.
Si, si, non, très bien, bon. Très bien.
Mais... Donc l'inexactitude, voilà l'avenir. Mmh. Et nous autres inexacticiens, nous fabriquons dès aujourd'hui, n'est-ce pas, les idées inexactes qui seront la vérité des générations futures. Mmh. Mmh. Et j'irai même plus loin. Plus nous fabriquerons, n'est-ce pas, d'inexactitude aujourd'hui, plus il y aura de vérité demain. Vous êtes bien d'accord avec moi?
Oui, ça, s'il y a absolument aucun doute.
C'est en quelque sorte un service public
à encourager.
Rendu à l'humanité.
Exactement.
Vous aviez évoqué, lors de notre première rencontre, une lettre qui nous a fait beaucoup réfléchir, et elle concerne un problème de réfrigérateur, je crois. Et
écoutez,
vous voulez nous rappeler le problème que cette lettre soulevait?
Il s'agissait d'un auditeur qui se plaignait que son réfrigérateur faisait des bruits la nuit et le soupçonnait d'avoir des rapports sexuels avec la gazinière dans la cuisine. Bon, ceci est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'en étonner. Les appareils de notre entourage sont doués, comme vous et moi, n'est-ce pas, de psychoses neuromécaniques d'ordre somatique. Par exemple, c'est ce genre de psychose mécanique qui fait que, par exemple, une automobile ne démarre jamais avant 10 heures du matin. Si son numéro de moteur divisé par le numéro d'immatriculation n'est pas un nombre premier ou un multiple de 4, n'est-ce pas ? Et ceci dans les jours où la Lune est dans le croissant. Si la Lune est dans le décroissant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les 4 premiers chiffres de numéro d'immatriculation divisés par le numéro choisi doivent donner un nombre premier. Vous me comprenez ? Bon, ceci tente à prouver qu'il y a une logique interne de la mécanique que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas ? Bon, dans le cas des rapports sexuels, franchement, je ne peux pas vous en dire plus, sauf que c'est tout à fait normal et que si ça les amuse, il faut les laisser faire.
Très bien.
Bon, pendant que nous parlons du courrier, je prends une autre lettre d'un monsieur qui a des inquiétudes au sujet du tunnel sous la Manche. Oui, c'est effectivement un problème qui nous préoccupe tous. On a bien essayé de creuser, ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'on creuse, mais, ma foi, on n'est pas arrivé à grand-chose, effectivement. Hein. Mm-hmm. Faut dire qu'à l'intérieur du tunnel, enfin, on a commencé à creuser, il pleut à torrent. Hein. nous avons étudié aussi à la STIF le problème, et nous avons une suggestion à faire. Hein. La solution consisterait non pas à creuser un tunnel, mais à faire un canal.
Je ne sais pas
un
si
canal.
Je ne sais pas si vous voyez très bien.
Non. Pas du tout, non.
Bon, c'est très simple. En fait, vous savez très bien que la Manche est très peu profonde.
Oui.
Soit, il serait donc très facile, soit, de construire deux grandes digues parallèles.
Soit, deux grands murs, oui.
Deux grands murs, hein, qui vont de France en Angleterre et d'Angleterre en France, évidemment. Et une fois que c'est fait, soit, on vide l'eau qui est entre les deux et vous avez une magnifique autoroute.
C'est un canal à sec. En fait.
C'est pratiquement un canal sec. Oui, je dis canal, j'avais dit canal. Enfin, c'est un canal vide, c'est ça.
Hein, oui.
Vide. Enfin, de France en Angleterre, on pourrait passer comme on veut, avec, mettant un petit peu de macadam, c'est pas un petit trottoir.
Au besoin,
oui, c'est ça. Besoin. Oui. Et on peut passer comme on veut.
À pied, à cheval.
Et d'autant plus que ces deux digues, n'est-ce pas, on peut les faire très, très éloignées l'une de l'autre. Enfin, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres, ça ferait une route de
200
mètres de large. Ça serait formidable, à mon avis. Et ça ne coûterait pas tellement cher. Je ne pense pas. Mmh. D'autant plus que ça serait beaucoup plus solide qu'un tunnel qui,
oui, bien
à
sûr,
tout moment, peut
oui, mais alors les bateaux qui vont dans l'autre sens.
Eh bien, écoutez, je crois qu'il y aurait problème de pas difficile à résoudre. Il suffit tout simplement de faire un ou deux ponts bateaux, n'est-ce pas ? Deux ponts qui seraient au-dessus de notre canal sec,
pas
des canaux mouillés, en quelque sorte.
Des canaux mouillés.
On en ferait un pour ceux qui vont de l'est en ouest, puis un autre pour ceux qui vont de l'autre côté, d'ouest en est.
Vous me direz que je cherche la petite bête, mais alors, par exemple, les sous-marins et les poissons, qu'est-ce qu'ils vont, eux, dans le sens est-ouest
Les sous-marins et les poissons qui, naturellement, sont obligés de nager sous l'eau...
Vont être gênés par le canal à sec.
Ah ben, à ce moment-là, on peut leur faire un tunnel, en dessous de notre tunnel sec.
Un tunnel plein d'eau.
Plein d'eau. Thank you.
when they begin, begin the begin. It brings back a sound, music so very tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palm seem to be swaying. When they begin, when they begin, when they begin,
les mélodies fortes, begin the begin. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête jusqu'à 13h58. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, le S plus 7, du côté de Chessing, avec Patrice Minet, Patrice Caumont, rime de hasard pour poème à notre façon, et la critique des Bourrimés, avec Gérard Mordillat, Lucas Fournier, Odile Conseil et Hervé Le Tellier. Oui, il sera question maintenant de quelques manipulations littéraires en compagnie de Patrice Delbourg. C'est un jeu imaginé par Jean Lescure mais pratiqué façon papou par Patrice. Pas toujours respectueux des règles du jeu, Patrice, le papou en fait à sa guise. Un poème, un grand et magnifique poème de Baudelaire, « L'ennemi ». Ce poème, j'ai proposé à Patrice Delbourg de le transformer en remplaçant chaque substantif ou nom commun qu'il contient par un autre situé 7 substantifs plus loin dans un certain dictionnaire. Et c'est là que le poète Patrice Delbourg a tous les droits. Celui d'abord de choisir le dictionnaire, et selon le dictionnaire, on n'obtient pas le même effet, naturellement. Et puis, si le résultat lui paraît plus intéressant en allant 9 ou 15 mots plus loin plutôt que 7, ou même en revenant en arrière, eh bien il le fera, Patrice. Parce que le plaisir de ce jeu, c'est aussi de créer ses propres règles. Sinon, l'exercice pourrait tout aussi bien être accompli par un ordinateur et ce serait dommage. Pas de ça au papou. L'ennemi de Baudelaire, il fallait un bon lecteur pour nous remettre ce poème en tête avant transformation. Le bon lecteur, c'est Jean Bernard. À vous, Monsieur Pouy.
L'ennemi de Baudelaire. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour assembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur ? Ô douleur, ô douleur, le temps mange la vie. Et l'obscur, ah ben ça fait rire alors.
Mais non, c'est juste dit par vous, ça fait rire.
Ô douleur, le temps mange la vie. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie.
C'est un poème sublime.
J'ai rien compris, mais oui, ça a l'air beau. Hein.
Ah bon, vous n'allez pas me dire que vous le découvrez quand même.
Non.
Ah bon, bah, c'est un poème que j'ai offert, cadeau, à Patrice Delbourg, parce qu'il lui va bien ce poème. Et Patrice, je vous ai demandé de le manipuler, et vous avez fait le choix d'un certain dictionnaire.
Oui, je me suis rué vers Lafont Bompiani, le nouveau dictionnaire des auteurs.
Donc tous les substantifs, vous allez les remplacer par des noms propres.
Absolument, par des noms d'écrivains, de poètes, de dramaturges, voire d'essayistes parfois.
Oui, qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs.
Non, j'ai essayé que les noms qui figurent dans ce poème soient des noms connus de tous.
Ah très bien, donc vous avez aménagé le hasard en fonction de ça.
Comme souvent, François.
Et c'est une bonne idée.
J'ai aménagé le hasard, c'est cela même.
Et de toute façon, vous allez changer Baudelaire, qui est un nom propre, et vous allez le remplacer par quoi ?
Je vais changer Baudelaire par Beckett.
C'est pas mal hein, comme changement.
L'ennemi, en plus, ça marche bien.
Ouais.
Et l'ennemi, évidemment, c'est l'Épictète.
Ah, c'est mon ami.
Le philosophe.
Oui.
Poète,
oui.
Épictète.
Oui.
Alors voilà, Épictète, c'est quand même un type formidable parce qu'il était boiteux, il était poète, il était esclave.
Oui.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aujourd'hui « Évadon, Épictète !» C'est un peu pour ça. Hein. C'est votre ami, Épictète ?
Ben oui, il me console.
Oui, oui. Il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Épictète et Diogène.
Ah. Alors, on vous attend sur le premier vers, qui est le plus connu. « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». Il y a deux substantifs, jeunesse,
voilà, jeunesse et orage.
Et orage. Alors.
Et donc, j'ai choisi deux écrivains aux deux extrémités d'un cheminement. D'abord, Jésus, pour la jeunesse. Il est éternel jeunesse.
Ben,
et il a écrit aussi
c'est
Jésus,
vrai.
Mine
et
de
il
rien.
A, et il n'a pas fait de vieux os, non.
Il n'a pas fait de vieux os.
Mort à 33 ans.
C'est exact.
Oui, oui.
Mais il a écrit quand même pas mal. Hein. Enfin, bon, on a réécrit, il y a des bons... Tout n'est pas de lui. Hein. Et puis, il y a beaucoup de textes sur lesquels il a fait une croix aussi. Et puis, il y a Orage, c'est Jean d'Ormesson.
Ah, c'est un parcours, voilà. Hein, de Jésus à d'Ormesson.
Quasiment, le premier
ça.
Vers, c'est déjà un parcours littéraire.
Ah oui, oui, oui.
De
oui,
Jésus
à, hein.
D'une croix à l'autre.
Oui, alors, traverser ça et là par de brillants soleils.
Soleil, c'est Sophocle, évidemment.
Évidemment, le tonnerre et la pluie.
Le tonnerre et la pluie. Le tonnerre, c'est la Triolet,
oui.
L'inspiratrice des yeux d'Elsa. Et la pluie, c'est Plutarque. On reste chez les auteurs grecs, mieux vaut Plutarque que jamais.
Jamais.
Merci. Ravage, alors là, bon, Ravage, je sais que je vais faire frémir quelques moustaches. Ravage, c'est Rebattet.
Oui.
Alors Rebattet, bien entendu, écrivain contesté,
oui.
Qui devait être fusillé d'ailleurs après la guerre, vous voyez pour quelle raison, mais auteur d'un roman quand même avec un assez beau style, Les deux étendards, qu'on ne réédite plus d'ailleurs, c'est un peu dommage.
Pas lu, non.
Lorsqu'il reste en mon jardin, alors là on a un nom d'écrivain, on le garde,
Alexandre.
Jardin. Non, pas lui,
Pascal.
Le père, Pascal.
Ah, bon,
Pascal,
oui.
Le nain jaune.
Ouais, ouais,
ah ouais. Non, quand même, pas Alexandre, on reste à un certain niveau. Non.
Bien
Pascal.
Peu de fruits, les fruits vermeils.
Et les fruits, alors c'est Furtière, c'est le lexicographe du 17e, le dictionnaire
pas
universel.
Mal. Ah, oui, pas mal, on est dans du beau monde là.
On est dans du très
là
beau
là
monde.
Là.
Et vous allez voir qu'on reste dans du beau monde.
Avec
voilà
l'automne
que j'ai touché
des
l'automne.
Idées.
L'automne, alors on reste dans la philosophie médiévale. Le grand philosophe de langue arabe, Averroès, voilà, auteur des commentaires d'Aristote. Bon, là, on reste quand même dans des auteurs assez pointus. Des idées, l'automne des idées. Bon, les idées, et Dieu sait s'il en avait, et drôlement tordu, Ionesco.
Évidemment.
Les idées, Ionesco.
Ça lui va bien.
Ça lui va bien. Et qu'il faut employer l'appel et les râteaux. L'appel, alors c'est pas celui du 18 juin, bien entendu, mais c'est notre maître à tous ici, Pérec.
Ah, et qu'il faut employer Pérec.
Et qu'il faut employer Pérec
et
les râteaux, c'est Renard, Jules, le grand diariste, notre grand et aimé misanthrope.
Ça va faire un très joli vers.
Pérec
ça,
et Renard, oui, là il y a quand même, il y a du joli monde. Ensuite, les terres que l'on trouve au vers ensuite... Les terres inondées, c'est Théocrite. Alors, Théocrite, c'est intéressant parce qu'on ne sait rien de lui.
Ah, moi, rien en tout cas.
Absolument
je confirme.
Voilà.
Je confirme.
Bah, je suis assez content quand même d'avoir une spécialiste.
Et on n'apprendra rien non plus.
Non, sauf qu'il est né à Syracuse et qu'il
déjà
est chanté régulièrement par Henri Salvador, mais ça n'a rien à voir. Donc, de Théocrite, c'est un poète grec assez fulgurant, mais dont on ne sait rien.
Mm-hmm.
Alors,
l'eau.
Alors là, c'est difficile. Et là, mon cœur s'est déchiré, mais j'étais obligé de changer de lettre.
Ah, c'est des choses qui arrivent, ça.
Je sais que, bon...
Oui.
Et donc, j'étais obligé d'aller chercher...
Vers F.
Oui, vers F. Et j'ai même pas trouvé. Alors, je suis revenu en arrière.
Ah, oui.
J'ai trouvé Durenmat.
Ah.
Donc là, j'ai triché frontalement.
Ah oui, c'est un S moins
voilà.
Bah, pas mal de choses. Hein, oui.
J'avais envie que Durenmat figure dans ce poème.
Ah
je
bon,
sais pas pourquoi.
Oui.
Ce romancier suisse, voilà.
Oui,
ah,
oui des vieilles.
Ce dramaturge
ah, non.
Aussi.
Non, j'ai dit des écrivains de qualité.
Ah bon, d'accord.
Donc j'ai choisi Durenmat.
Et il est très sévère avec Paul Éluard. Hein.
Oui, Polo, je le sens pas trop, Polo.
Ouais.
Dans ce
et les trous, grands comme des tombeaux.
Alors les trous, c'est Twain, Mark.
Mark Twain.
Ah.
Et Dieu
j'adore
sait s'il en fait des trous dans les aventures de Huckleberry Finn et de Tom Sawyer. Il y a plein de trous dans le sable du fleuve.
Par contre, moi qui ai un trou par rapport à Théocrite, j'en ai aucun par rapport à Mark Twain.
Ah bah Mark Twain, il a une
comme
vie...
Comme c'est étrange.
Il a une vie sacrément balisée. Hein. grand homme. Alors, un peu plus loin, nous avons tombeau, oui. Comme des tombeaux. Alors, tombeau, bah, c'est Tourguenieff.
Bah, il bien fait entendu, très bien dans le voisinage.
Bora Bougival.
Alors, on saute une strophe. Hein, enfin, oui, on fleurs. Passe à la strophe suivante avec les fleurs.
Alors, les fleurs nouvelles que je rêve. Oui. Alors, les fleurs, c'est notre centenaire, c'est Fontenelle. Ah. 1657, 1757, l'auteur des essais sur la pluralité des mondes. Et alors, qui est mort centenaire parce qu'il buvait du lait d'ânesse.
Ah, mais...
C'est quand même tout à fait étonnant. Comme, enfin, je tenais à vous le dire au passage.
C'est sympa, oui. Voilà.
Suivons sympa, son oui. conseil. Oui. Voilà.
Trouverons dans ce sol lavé comme une grève, sol sous peau, bon, les champs magnétiques oui. avec André Breton, et la grève, c'est Grimm. Là, vous en avez deux pour le prix d'un
oui.
même.
Oui.
Hein?
Merci beaucoup.
Alors, on passe au mystique aliment.
Aliment. Alors là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Aliment, c'est Alphonse Allais.
Bon, oui.
Bon, il est là. Et puis,
vous
Dieu
pouviez
sait,
vous le permettre.
Dieu sait s'il aimait les aliments et surtout les liquides qui accompagnaient les aliments. Et qui ferait leur vigueur? Alors là, après Alphonse Allais, encore un grand homme, Villon.
François.
Ah, oui,
et oui.
Un des plus grands.
Sans doute, alors, et lui, il n'en manquait pas de vigueur, ce vaurien. Hein. Donc, vigueur, vilon.
Alors, on passe aux douleurs. Ces vers merveilleusement dits par Jean-Bernard Pouille tout à l'heure. Aux douleurs, douleurs.
Alors, je ne sais pas s'il le dirait de la même manière avec l'écrivain qui va remplacer la douleur. Et c'est un homme qui fut une entière douleur toute sa vie, c'est Drieux-La Rochelle.
Ah!
Donc, Audrieux-La Rochelle, Audrieux-La Rochelle.
Je ne sais pas si ça nous ferait rire, comme tout à l'heure. Hein.
Alors que Duras aurait été la douleur.
Tu enlèves La Rochelle, tu dis Audrieux.
Pourquoi vous n'avez pas mis Duras?
Parce que Duras ne me vient jamais à l'esprit.
Non. Ah oui.
C'est comme, par exemple, quand au cinéma je vois Fanny Ardant, je ne vais jamais au cinéma.
C'est
des choses comme... Ben oui. Enfin, va pas... Bon. Vous préférez donc Audrieux?
Je ne sais pas, il me semble que ça sonne mieux que La Rochelle.
Ou peut-être Audrieux-La Rochelle, on verra.
Après, on a Le temps mange la vie.
Le temps mange la vie, bon, le temps c'est Teilhard de Chardin, et la vie c'est cet illuminé de Villiers-l'Isle-Adam. Donc Teilhard de Chardin mange Villiers-l'Isle-Adam. Ça c'est presque le thème d'une thèse.
Qu'est-ce que ça va devenir long.
Très long,
c'est un peu dommage.
L'ennemi,
ah bon, vous auriez préféré
Épictète.
L'inverse.
Oui, c'est vrai. Le cœur, c'est Conrad. Il en avait.
Et l'ennemi,
le cœur de Conrad. Épictète.
Ah bah oui, bien sûr,
oui,
on l'a déjà eu tout
l'a
à l'heure.
On l'a eu en titre, Épictète. Donc le cœur, le Conrad de Lord Jim.
Ouais.
Et puis le sang, bon, c'est Sarote, c'est notre chère Nathalie, la petite Nathalie des Fruits d'Or, qui termine ce poème avec que des écrivains, hormis deux ou trois de qualité.
Absolument. Hein? Et on a hâte d'écouter ce que ça donne. Est-ce que la musique de Baudelaire résiste?
L'Épictète par Chilpéric Beckett. Mon Jésus ne fut qu'un ténébreux d'ormesson, traversé çà et là par de brillants sophocles. La Triolet et le Plutarque ont fait un tel rebattet qu'il reste en mon jardin bien peu de furetières vermeilles. Voilà que j'ai touché l'Averroès des Ionesco et qu'il faut employer le Pérec et le Renard pour rassembler à neuf les Théocrites inondés ou du Redmat creuse des Twain comme des Tourguenieff. Et qui sait si les fontenelles nouveaux que je rêve trouveront dans ce soupeau lavé comme un Grimm le mystique Allais qui ferait leur vilon. Audrieux La Rochelle, Teilhard de Chardin mange Villiers de l'Isle-Adam, et l'obscur Épictète qui nous ronge le Conrad, du Sarraute que nous perdons, croit et se fortifie.
Il y a un petit passage un peu étrange, c'est l'histoire de ronger le Conrad, là. Hein,
oui,
c'est
un petit
beau
peu...
ça, ronger le Conrad.
Ah, vous trouvez
oui,
ah,
oui c'est presque de l'argot. Hein. Oui. Le typhon vous ronge le Conrad.
Bah, c'est pas mal.
Oui, non, c'est très bien.
Je trouve qu'à partir du moment où on ne touche qu'au substantif, ça fonctionne merveilleusement avec le dictionnaire des auteurs. Il y avait une musique, il y avait une élégance, Jacques Vallée.
J'ai regretté pour Villiers de l'Isle-Adam, c'est tout.
Qu'il soit mangé par
Teilhard de Chardin.
Il y a un côté court, un côté chardin.
Somewhere over the rainbow, way up high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. The rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Over the Rainbow, façon Nina Hagen. Alors oui, c'est très différent de la version de Judy Garland. Du côté de chez Signe, avec les Patrice Minet et Caumont. Pour une astrologie différente, où nos destins ne seraient plus sous l'influence de la Lune, ni sous celle du Soleil ou de la numérologie, tentons une autre hypothèse. Et si on jouait à naître lundi ascendant chef de gare, ou bien balançait l'ascendant pulmarine, quelles seraient nos qualités, nos défauts, comment choisirions-nous nos amours, notre métier, et quelle influence sur notre santé? Ah, autant de questions. Mais pour naître sous l'influence de ces nouveaux signes, il faut remplir certaines conditions. Patrice Minet nous emmène en balade du côté d'un de ces signes. Alors, on s'intéresse à qui, Patrice?
Alors, on va s'intéresser au signe suivant, carte postale.
Ah, oh, c'est bien ça.
Ascendant Cucaracha.
Ah oui?
Oui. Ce signe délicieux appartient à ceux qui sont nés quelque part, n'importe où, mais ailleurs. Et le plus loin possible.
Ouais.
Les natifs de ce signe, dès qu'ils apparaissent, apportent à l'entourage plaisir et curiosité. Mmh. Vous connaissez bien ça.
Oui, moi je me reconnais un peu.
Tout le monde connaît des cartes postales dans son entourage.
Mais oui.
Et pense, les cartes postales la ramènent un peu quand elles racontent « Moi, quand j'étais petit à Bornéo » ou bien « Oui, je parle malgache couramment, c'était la langue de ma nounou. » Quand on est né sous le signe de la carte postale, on revient de loin, mais est-ce tout? Les natifs passent leur temps à envoyer des baisers, comme la reine d'Angleterre dans son beau carrosse, et à vous murmurer « Je pense à vous » en effeuillant des marguerites, en méditant au bord d'un lac ou en peignant la girafe. Mais pour que leur bonheur soit complet, il faut que vous soyez absent, loin d'eux. C'est là qu'ils se réalisent que leur signe exerce le plus fort de son influence. Madame de Sévigné, héroïne de ce signe, laisse, je cite, « aller sa plume » qui va comme une étourdie. Mmh. Et nous livre là une des clés du caractère de la carte postale. Elle est un peu timbrée. Et si elle conserve en société une certaine tenue, c'est qu'elle ne se tamponne pas totalement des conventions. On pourrait imaginer les natifs férus de géographie, de nouvelles fraîches, ou simplement monomaniaques. Mmh. Les spécialistes les regardent comme des personnes éprises de liens sociaux, aimant l'urbanité, la famille et les amis. Le fait d'être nés quelque part ailleurs les condamne pour toute la vie à rassurer leur entourage en donnant régulièrement de leurs nouvelles, en voyant toujours les événements de façon positive. Mmh. « Ma jambe est douloureuse », écrit Arthur Rimbaud, ouais. « mais j'ai quand même vendu 300 fusils ». Ce sont souvent des écrivains, et tout écrivain est un peu carte postale. Même ceux qui ne sont pas nés quelque part ailleurs et loin font comme si c'était le cas. Cela leur permet à intervalles réguliers de donner de leurs nouvelles, de se situer par rapport au reste du monde. Car pour la carte postale, en vérité, c'est le reste du monde qui est en voyage, pas eux. Notons que les cartes postales, ascendant Cucaracha, auront tendance à voir s'amplifier le tempérament voyageur du signe, jusqu'à, pour certaines, le transformer en agitation, surtout pour les cartes postales mexicaines. Je vous rappelle, pour terminer la chanson, vous connaissez, non ?
Non.
Non. La carta postale, la carta postale, ya no puede caminar, porque no tiene, porque la falta, marihuana que fumar.
Oui.
En fait, c'est la cucaracha.
Oui, bah, oui, oui, on avait vaguement compris, alors, remarqué.
La carte postale ne peut plus marcher parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer.
Oui. Moi, je trouve que c'est un signe très, très joli. Hein. J'aimerais bien être carte postale. Je ne sais pas, peut-être je le suis d'ailleurs.
Peut-être.
Ils sont nés quand, les cartes postales ?
Quelque part, n'importe où.
Oui, c'est ça. Bon, après tout, hein.
Oui, le cachet de la poste fait foi.
Voilà.
Exact, exact. Patrice Caumont, vous êtes rédacteur en chef d'une rubrique dans un journal, je ne sais pas lequel d'ailleurs.
C'est un bulletin militant syndical qui s'appelle La carte postale, l'affranchissement libre, non.
Et vous tenez la rubrique Les prévisions de la semaine à venir, c'est ça ?
Non, non. Bientôt le grand soir.
Ah oui, oui, enfin c'est un peu les prévisions quand même, ça.
Et halte aux fermetures des emplois.
Ah oui. C'est ce que vous prédisez pour...
Des enveloppes,
oui, pour
des
les cartes postales.
Les cartes postales.
Pour
les cartes postales, oui. Non, il a dit emploi. Oui, des enveloppes, ça aurait été joli. Ouais. Est-ce qu'on met encore les cartes postales dans les enveloppes?
On les a jamais mises. C'est un des problèmes que nous allons aborder.
Alors, allez-y, travail.
Ayez une affectueuse pensée pour ceux qui restent. Car quand vous serez au Turbin, eux seront partis. Ne vous plaignez pas. Vous êtes délocalisés, certes, mais vous avez encore du boulot. Alors que les SMS ont foutu la moitié de vos camarades au chômage. Faites votre travail, faites rêver et rendez jaloux les travailleurs. Cessez d'envier les cartes routières. Pour le coup, c'est le GPS qui va les mettre sur le sable. Décidément, les acronymes, mis à part la CGT, sont les ennemis du peuple au travail.
Ah ouais.
Santé. La carte postale, ne l'oubliez pas, est votre carte vitale. Votre atout sécu, la thalasso, la montagne, la mer, le soleil, vous pétez la santé. Vous ne devriez jamais être en arrêt maladie et encore moins en RTT. Faites attention au changement de température. N'oubliez jamais que vous arrivez des dom-toms sans enveloppe et l'on voit bien à votre timbre que vous êtes enrhumé.
Ah oui.
Amour. Ah oui. Je sais, vous avez la nostalgie des amours de vos parents, de vos grands-parents, ces cartes postales sépia, ces cœurs détourés, où deux amoureux échangeaient un timide baiser et où le message était déjà écrit. Aujourd'hui, pour vivre, vous tapinez dans les muséums shop et vous ne faites que reproduire et copier les grands peintres célèbres. Vous avez perdu votre personnalité. Mon conseil, ne partez plus qu'à destination de la province, surtout des petites villes, et exiger une écriture assez grosse. Ainsi, vous aurez autant de lecteurs que les réseaux sociaux. N'enviez pas le numérique. Vous, au moins, avez encore le sillon griffu de la plume sur votre dos et la vraie couleur de l'image sur le ventre. Vous n'êtes pas virtuel, c'est votre première vertu.
Oh, c'est un message qui est très rassurant pour les cartes postales, je trouve. Hein.
Ah, ouais, oui. C'est une prise de position définitive.
Il a franchi le Rubicon.
Oui.
Sur le pont des arts, tu croises le vent fripon. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, tu croises le vent marot. Prudent, prends garde à ton chapeau. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens pauvres, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau.
Catherine Ringer, si par hasard sur le pont des arts. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, rime de hasard pour poème à notre façon et la critique des bourrimés avec Gérard Mordilla, Lucas Fournier, Odile Conseil et Hervé Letellier. Alors voilà comment nous avons procédé, nous avons tous mis dans un chapeau des mots rimant ensemble, deux à deux. 10 couples de rimes seront tirés au sort par Lucas Fournier et par Gérard Mordilla et seront les figures imposées de leur poème à imaginer. À imaginer aussi son titre à ce poème, le nom de son auteur et le recueil dans lequel il pourrait bien figurer. Ensuite, nous découvrirons les vraies fausses critiques écrites à propos d'un de ses poèmes, comme si le recueil était publié et faisait l'objet de chroniques. Alors d'abord le tirage au sort des mots imposés. Nos deux poètes naturellement peuvent en refuser, à condition d'être d'accord. Si vous voulez jouer avec ces mêmes 20 mots, vous pouvez écrire vos poèmes, rubriques, vos essais sur les jeux papous sur notre site franceculture.fr, à la page des papous dans la tête. C'est parti, Lucas Fournier plonge sa main dans le chapeau, remue, oui c'est ça, remue bien Lucas, avec application. Et il tire un petit papier.
Le premier papier sera Marathon et Bœuf Miroton.
Ça vient de qui?
Ça vient de loin.
C'est-à-dire
JB, Jean-Bernard Pouy.
Oui. Voilà. Alors, marathon, bœuf miroton.
Alors, marathon et bœuf miroton.
Vous prenez...
Oui, bœuf miroton, tu dis.
Ah, on dit miroton.
On dit miroton.
On ne dit surtout pas mironton, qui est
ah bon
une faute.
Ah oui,
ah ben, c'est miroton.
Miroton, bah dis donc.
Allez, c'est pris. Troisième et quatrième mot, Gérard.
Alors, bah ça c'est très bien parce que c'est des mots que j'ai écrits moi-même.
Oui.
Barbouille et chatouille.
Ouais, c'est simplé un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé ?
Je pense que bouille ne rime pas avec touille, mais...
Il n'y a pas la consonne d'appui, oui, Gérard. On a un B, on a un T.
Ah bah oui, mais...
Bon, il y a la rime en ouille, évidemment.
La rime en ouille, qui est une des plus belles rimes de langue française.
Gribouille, alors ?
Gribouille.
T'aimes pas chatouille ?
Si.
Mais barbouille et gribouille, bah, ça reste la même chose.
Ratatouille, alors, et puis voilà.
Puis aussi,
ah, c'est plus intéressant. Ratatouille, chatouille.
Oui.
Je valide. Allez.
Bon,
bon.
Plat de nouilles, ça aurait été bien aussi.
Ensuite, Lucas Fournier.
Je vous propose Romarin,
oui,
et Parrain.
Ça vient de qui, ça ?
D'Odile, Conseil.
Romarin, Parrain.
Ah, non, oui. Moi, ça ne me dit rien.
Ça ne vous dit rien ?
Non.
On jette ?
Non.
Vous êtes d'accord,
non,
bah,
parce qu'il y a de la ratatouille. On pourrait mettre du romarin dans la ratatouille.
Ouais, c'est facile.
Oui. Non, oui.
Facile. Oui. C'est le hasard. Le hasard vous est contraire, Odile. Pas grave.
J'accepte.
Alors, oui, il n'y a pas de hasard.
Alors, toujours dans le culinaire, nous avons trognon et grognon.
Ah, ça c'est bien.
C'est de moi, ça, oui.
Ça c'est bien, c'est de la base.
Oui.
Trognon, grognon.
Oui.
Voilà. Trognon, grognon. Nous sommes à 6 mots.
Alors, je cherche dans le fond, parce que c'est mieux dans le fond.
7 et 8.
Alors, j'ai bombance et nuance de Françoise. Non, on peut faire mieux, je pense, que bombance.
Bombance, on est trop à table depuis
oui,
le début.
Oui, non, parce
allez.
Que là,
d'accord.
Oui,
allez.
Le bœuf mironton.
On refuse, on refuse. Remuez.
Un autre, je remue, parce que c'est... Voilà. Ah, celui-là, il est bien. Celui-là est très, très bien. Je le sens bien. Reine et Fresne. Françoise.
C'est court, hein.
Mais vous pouvez mettre tous les pieds que vous voulez avant.
Mais reine, de Norvège ou reine
Oui, reine avec une couronne, oui.
Et
ah,
Fresne,
oui.
Pas l'arbre, non.
Non, alors, les mots, vous les prenez dans le sens que vous voulez. Et Fresne, je l'ai écrit comme le verbe freiner.
C'est pas la prison.
E-I-N.
Non. Non, non, c'est pas.
Donc c'est reine comme une reine reinette, comme ce que vous voulez.
Reine et Fresne.
Vous n'avez plus droit qu'à un refus.
On va en prendre un autre.
Ok, plus de refus.
Plus de refus.
Plus de refus.
Alors, hop, celui-là.
Ah, ben c'est mieux, ça, déjà, voilà.
Ah ben, Françoise en avait mis plein, parce que j'ai... Ah, ça, c'est très bien. Richelieu et oui. Mieux.
Voilà, Richelieu et Mieux. Mais j'ai beaucoup travaillé, moi, vous savez.
Il y a Françoise.
Ouais.
Eh ben,
Mieux. Il y a Mazarin et bien, et Richelieu et Mieux.
Richelieu et Mieux.
Oui, voici le 9 et voici le 10.
Non, mais vous aurez 20 mots en tout, hein. 10 papiers, 20 mots.
Ah oui, cartable et rétable. Magnifique.
Ah oui, ça, je suis d'accord. Oui.
C'est Jean-Bernard.
10 mots suivants.
Les 10 mots suivants. Ah, sirène et polystyrène de Lucas.
Ah, ça c'est bien.
Ah, moi je suis d'accord,
très
oui.
Très riche rime. Oh,
c'est que nous.
Oui, non. C'est que nous.
Ah non, non, c'est Alain Resnais.
Aussi. Oui, mais c'est le
film de Queneau.
Oui, le scénario de Raymond Queneau.
Oui, mais
le
qui est mort.
Sirène.
Alors que René,
on espère le garder encore un petit moment.
Oh, les arguments.
Sirène, polystyrène.
Allez, ça marche. Après, Lucas.
Ça marche avec notre histoire.
Ça manque un peu de verbe, de personnage, de lieu.
Une très belle rime. Business, fitness.
Ah oui, ça c'est
Françoise,
de moi.
Françoise, évidemment.
Et ça me plaît beaucoup parce qu'il faut des mots un petit peu contemporains pour la poésie.
Ah oh oui, bien sûr. Bien sûr.
Business bien sûr. Et fitness.
Tu sais quoi ? C'est pas du français, ça ?
Non.
Ah, alors là, j'ai un verbe et j'ai un lieu. Marseille et Grasseille, du verbe grasseiller. C'est Odile Conseil qui nous a confié Marseille et Grasseille.
Eh bien, elle nous gâte, Odile Conseil. Enfin, elle vous gâte, on verra.
Marseille, ça, Grasseille, ouais.
C'est une belle rime, hein.
Ouais, ça.
J'aurais dû faire Marseille Conseil, en fait, maintenant que j'y pense.
Alors, oui, mais... 17e et 18e rime.
Alors, Françoise, à nouveau, nous propose Bouloche et Cloche.
Ah oui, ça j'aime bien, parce que vous savez, on a toujours des tissus qui boulochent quand on les lave mal dans la vache.
Ah oui, on dit qu'on a des bouloches.
Des petites boules là, qui sont au
linage. Je te rappelle que c'est qu'un écoutille.
Voilà. Montrez-le mieux au micro, Jean-Bernard. Ah, bah, votre pull vert.
Ah, c'est bien, ce sont des pelures de chandail, des bouloches.
Allez, les deux derniers mots seront Gérard.
Ah, très bien, c'est de JB, Calombreden et Beden.
Ah, c'est bien, Calombreden.
C'est un peu l'histoire de sa vie.
J'ai l'impression que...
Non mais...
C'est un excellent résumé.
Si je racontais vraiment l'histoire de ma vie, il y aurait des rimes beaucoup plus costauds.
Comment se fait-il qu'on ait tiré au sort aucun des mots d'Hervé ? Vous avez travaillé, Hervé ?
Vaguement.
Non, il n'en a pas mis dedans.
Eh bien, au travail, amusez-vous bien, surtout.
Oui.
Gérard Mordia, Lucas Fournier, ça s'est passé, évidemment, le temps qui vous est imparti est écoulé.
Oui, était court, surtout.
Ah, mais c'est comme ça, c'est le plaisir du jeu et du risque. On réécoute les 20 mots qui vous sont arrivés, Gérard.
Marathon, bœuf miroton, ratatouille, chatouille, trognon, grognon, Richelieu, mieux, cartable, retable, sirène, polystyrène, business, fitness, Marseille, Grasseille, bouloche, cloche, Calombreden, Beden.
Voilà, c'est des mots, Patrick Beignet, ces mots, vous les découvrez. Il y en a qui sont magnifiques, hein, bouloche, cloche, par exemple, ouais. Pour ne citer que ceux-là. Ce n'est pas parce qu'ils étaient de moi, hein, mais Vous les trouvez bien, non ?
Je les trouve merveilleux, oui. Que n'ai-je eu à les traiter ?
Ah ben voilà, c'est un regret. Ça vous aurait inspiré un poème ?
Certainement.
Certainement. Alors, on va découvrir celui de Gérard Mandilla, qui a été plus spécialement inspiré par quel mot, Gérard ?
Bien, j'ai été inspiré par le premier et par le dernier, qui me semblait avoir une sorte de tension dramatique.
C'est-à-dire ?
Entre Marathon et Bodène. Je crois que les deux choses vont assez bien ensemble.
Oui. Et le poème porte un titre.
Oui, le poème porte un titre. Il s'appelle « Cours après moi que je t'attrape ».
Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pour le marathon, est-ce qu'on court après quelqu'un ? Oui.
Ah bah, plutôt. Oui, bien sûr, oui.
Toujours avec celui qui vous précède.
Voilà.
Oui. « Cours après moi que je t'attrape ». Et ça figure dans un recueil,
oui,
j'imagine.
Oui, c'est dans un recueil qui s'appelle « Lettre à un jeune cavaleur ».
Ah oui.
Voilà.
Vous choisissez une poésie...
C'est un peu un poète en bout de course.
C'est à peu près ça, d'ailleurs. Voilà, oui.
Est-ce que vous choisissez une forme de poésie classique ?
C'est une forme pseudo-classique et néo-moderne.
Oui.
C'est de l'alexandrin approximatif, dans lequel on a pu voir des choses admirables. Et comme là, ça repose plus ou moins sur une traduction de l'étranger, ça justifie toutes les acrobaties versificatrices.
Ah bon ? Parce que vous portez un pseudonyme pour l'écrire,
oui,
évidemment.
Oui.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Rainer Maurice Rilke.
Oh. Ah oui, ça rappelle vaguement quelque chose, mais très très vaguement. Hein.
Vous savez, il y a beaucoup comme ça d'homonymie. Mais
oui,
bon,
oui, oui,
voilà.
Oui, oui. Allez, on découvre.
Jeune ami, si tu veux courir le marathon, mieux vaut te dispenser de bœuf miroton. Que ta mère t'embouille une ratatouille, comme dit l'Auvergnat, ratatouille, chatouille.
Ouais.
Merci, ouais, Jean-Bernard.
C'est magnifique.
Tant pis pour les envieux, tant pis pour les grognons, tu peux manger des pommes, croquer leurs trognons. Tu deviendras alors ce jeune dieu du fitness qui cavale, qui en fait son business. Admiré des tritons, loué par les sirènes, reine des vouvouzélas, tout en polystyrène, comme on voit aux tribunes, tout près de Marseille. Belle fille de grâce qui jamais ne grasseille, de leurs cris, leurs sourires, remplis ton cartable. Plus tard, tu en feras une icône, un retable. Pour courir à Vincennes, changer à Richelieu. C'est bien, mais ce n'est pas le mieux. Après 40 bornes, si ton maillot bouloche, dis-toi que c'est la fin. Enfin, sonne la cloche. Si tu n'as pas gagné, foin de Calambredaine, tu auras quand même perdu ta bedaine.
Il est très très fort ce Rainer Maurice Rilke parce que il fait de la prose en fait.
Ah, hein. Oui, oui.
Et il nous fait croire que c'est de la poésie du faux alexandrin et c'est pas si facile.
Ah non, mais le verbe de mirliton est le plus compliqué à faire.
Le miroton. Le verbe de,
ouais. De miroton.
Le bœuf mirliton, c'est terrible à faire parce que c'est, comme disent les gens qui chantent du rap, c'est du flow. Il faut le flow.
Ouais.
Sinon, c'est pas.
Lucas Fournier, tout comme Gérard Mandilla, vous avez travaillé avec ces mêmes 20 mots qui étaient pour certains
aussi
somptueux. Dans l'urgence toujours, mais c'est le propre des papous. Quels sont les mots qui vous inspirent le plus ?
C'était Marseille et business.
Ah oui, évidemment, évidemment.
Mais c'est pas du tout ce que vous pensez.
Ah non.
Non.
Non, mais je ne pense à rien.
Je suis dans l'urgence.
Marseille business. Mmh. Vous écrivez sous pseudonyme, je suppose.
Oui, je m'appelle Germain Defer.
Oui.
C'est bien pour Marseille.
T'aurais pu prendre Aïlé, c'est la chine. Germain, c'est Defer.
Et le titre du poème ?
Alors, le titre du poème, c'est « Le TGV, c'est bien ».
Le TGV, c'est bien.
C'est un poème réclame.
Oui, c'est une pub pour la SNCF.
Oui, c'est d'ailleurs c'est dans un recueil qui est dédié au TGV.
Et oui, qui a pour titre ?
Gloire au TGV.
Ah bon, c'est...
Donc, il y a beaucoup de poèmes. Vive le TGV, c'est bien. Splendeur du TGV, enfin.
D'accord, et vous êtes payé, rémunéré par SNCF.com, je
voilà,
suppose.
Voilà, oui.
D'accord. Et bon, est-ce que le parti pris est résolument moderne, comme chez Gérard Mandilla, au moins ?
Oh bah, c'est quand même une invention récente, le TGV.
Oui, enfin. Mais pas la poésie.
Oh, mais la poésie, elle est éternelle.
Donc, dites-nous, vous faites plutôt genre Hugo ou pas ?
Non, je fais genre réclame. Hein. Ça, je suis désolé.
Bon, le TGV, c'est beau.
Oui. Mais moi, j'ai écrit « Le TGV, c'est bien ».
C'est autre chose, c'est une autre version.
C'est un autre. Hein. « Le TGV, c'est bien, surtout en classe business.
On y joue aux échecs, on y fait du fitness, on y apprend le grec entre Lille et Marseille. Ah, qu'il est doux ce train dont les bogies grasseillent. Tandis que dans l'avion, l'angoisse vous chatouille, on sent son estomac devenir ratatouille, quand la ceinture étroite vous serre la bedaine et que l'hôtesse dit tout en calembredaine comment mettre un gilet made in polystyrène, car l'avion peut tomber au milieu des sirènes, ou quand son uniforme ignoble se bouloche, on pressent qu'à bâbord l'un des réacteurs cloche. Non, le TGV c'est bien, et c'est même bien mieux. Out of the window, passe de Richelieu, on abat sa tablette, on ouvre son cartable, on en sort son ordi, précieux comme un retable. Quand vient le contrôleur, il n'est jamais grognon, car il est bonne pomme et n'est pas un trognon. Le TGV c'est bien, et c'est au marathon ce que le Burger King est au bœuf mironton.
Oh, la chute est amoureuse à souhait, oui, très très belle chute.
C'est absolument magnifique.
Ouais.
Je pense qu'il est payé en kilomètres.
Ah oui, en tout cas, on nous fera préférer le TGV, qu'il soit beau ou bien. Alors, vous savez que votre livre est sorti,
oui,
évidemment,
bah oui.
Il est sur le site de la SNCF.
Et sur les sièges des wagons.
Absolument.
Des voitures.
Des voitures.
Et Odile Conseil, ici présente, est chargée de le chroniquer. Elle pige un petit peu à droite, à gauche. Il faut gagner sa vie. Hein. Donc, oui. Elle écrit des articles. Elle fait des critiques, ce qu'on appelle des critiques, des chroniques, sous pseudonyme, naturellement.
Absolument.
Alors, je ne sais pas si vous êtes sur SNCF.com, vous, non?
Non, non, moi je suis pigiste à la vie du rail.
Ah bah c'est pas très loin, hein, vous êtes dans le domaine. Et vous écrivez sous quel nom?
Je m'appelle Camille Lapige, mais je signe C'est Lapige.
Ah ben bah, c'est amusant.
Alors bon, je suis une pigiste occasionnelle. Hein, donc
non, c'est ce que j'ai dit un petit peu. Oui,
j'essaie de me rappeler que j'écris pour la vie du rail. Parfois oui. Je me laisse un peu entraîner par les élans journalistiques me prennent.
Et qu'est-ce que vous pensez du livre de Lucas Fournier?
Écoutez, j'éditerai l'article « De faire » ou le très grand virtuose.
Ah, carrément. Ah oui.
Pas moi.
Oui.
Après, gloire au tortillard, gloire à l'Orient Express, gloire à la Micheline, gloire au train corail, Germain Defer, toujours vert malgré les ans, revient en librairie avec Gloire au TGV, un court recueil de poèmes idéal pour le TGV précisément. À titre indicatif, j'ai personnellement eu le temps de le lire deux fois au moins sur un trajet Paris-Lille de 58 minutes. On aime bien sûr cette déclaration d'amour au TGV qui, sous la plume de Germain Defer, prend parfois des accents hugoliens. Où vont ces TGV qui jamais ne déraillent? Ils mènent ceux qui en ont jusque-à leur travail. Les familles à la plage, les skieurs à la plagne, rêvant qui d'océan, qui de haute montagne.
C'est beau. C'est vrai, c'est beau.
Ouais, mais je dis, ça mérite l'admiration, non? On saluera aussi la richesse lexicale de l'auteur et sa puissance imaginatrice qui fait successivement du TGV un serpent sifflant sur le sol, un ver de terre amoureux d'une gare, un spermatozoïde lancé vers son destin. Ah, sans les poètes, les TGV ne seraient décidément rien d'autre que des trains, rapides certes, mais menant leur train-train quotidien. Alors qu'avec Germain Defer, nous entrons dans l'espace sensible d'une Marceline Desbordes-Valmore, j'ai voulu ce matin prendre le TGV, pas le temps de dire « ouf, me voilà arrivé ». Nous flirtons.
On la reconnaît bien. Oui.
C'est tout elle, oui.
Oui.
Nous flirtons avec le souffle puissant de Saint John Perse. C'était de très grands trains sur toute face de ce monde qui s'envolait de gare en quai et nous laissait aux voyageurs à bon port en un rien de temps. On regrettera, cependant, quand même, que l'auteur ne consacre pas une ligne, pas un vers, pas une strophe à l'excellence de la motorisation, au profilé de la calandre, au bogey de dernière génération, aux mousses polyuréthane à mémoire de forme qui équipent les sièges, à leurs revêtements textiles calorifugeaux personnalisés. Un vrai poète, ce de fer. Rideau.
Écoutez, c'est une très belle critique, en tout cas, à part le petit bémol, mais très léger.
Oui, puis qui annonce le prochain livre.
Exactement, oui. Qui sera ?
Qui sera le « Vive le siège du TGV
». Elle vous a donné des idées, très bonnes idées. Il va falloir la mettre au droit d'auteur, peut-être, faire un petit effort. Et je crois que vous avez eu une autre critique, c'est Monsieur Letellier, bon, Hervé et tout.
En fait, je signe sous le nom de Guylaine Latémine.
Pourquoi sous un nom de femme ?
Parce que je pense qu'il est utile de vraiment brouiller les pistes, parfois.
Ah oui.
De croiser les rails.
Et vous travaillez où ?
La poésie aujourd'hui.
Ah oui. Ah oui, évidemment. C'est un air désespéré, c'est beau la poésie.
Non, j'ai pas beaucoup aimé ce texte, donc voilà. Et pourtant, Germain Defer, dont on avait plutôt aimé en 1992 le TER, c'est beau. Oui. Et puis, voici maintenant 10 ans, le RER, c'est bon. Il nous propose aujourd'hui son troisième opus, Gloire au TGV, où l'on retrouve sa thématique dans le poème central, Le TGV, c'est bien. Alors, bon, poésie lyrique, poésie élégiaque, certes, mais aussi parfois, hélas, poésie partisane, et oui, où la mauvaise foi transparaît, ainsi qu'un goût certain pour la scatologie. Je vous cite, dans les toilettes du TGV, on lit ainsi, on peut dans les toilettes faire un petit pipi, chose qu'on ne peut pas faire dans une Audi. Bon. On peut également y faire un gros popo, chose impossible à faire au volant d'une Peugeot. Bon, alors,
c'est évidemment, restrictif, oui, évidemment.
Oui. Bon. Personnellement, je ne suis pas très favorable à ce genre de poésie, certes populaire et qui peut plaire et faire sourire, mais bon, c'est... Germain Defer, dans Le bar du TGV, a parfois des élans gastronomiques. J'aime ton cake en tranche aux 1000 calories et ta pâte sucrée farcie de fruits confits et ton menu loisir à 12,50 € quand le monde défile, la vitesse effarante. La question est, cet ouvrage était-il utile ? Ma conception de la poésie, c'est qu'elle se doit être l'expression d'une nécessité impérieuse. On peut parfois en douter, je vous cite, à 3 heures à peine, on arrive à Bordeaux en partant de Paris. La vitesse, c'est beau. Il faut 2h20 pour aller à Strasbourg. TGV, adoré, je t'aimerai toujours. Bon. Alors le service de presse nous avertit que dans un mois à peine paraît un nouvel opus. Le tramway, c'est super. Bon, si l'échec grandit l'homme, alors là, Germain Defer est un géant.
Écoutez, la fin est assez encourageante. Vous êtes un géant. Après tout, si on retient le dernier mot...
Oui.
C'est formidable.
Oui, quand on fait des extraits après, on blurbe à la fin. Savez, faut juste garder les bons mots.
C'est non, un non. géant.
C'est quand
un
on
géant.
Fait de la poésie, monsieur, c'est encore plus beau lorsque c'est inutile.
Il paraît.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Olivier Dupré et Franck Lilin. Un numéro des Papous à retrouver sur franceculture.com pour le téléchargement ou podcast pendant 1 an et la réécoute durant 1000 jours à la page des Papous où vous pouvez déposer vos remarques, questions, suggestions, demandes diverses, rubrique commentaires et puis consulter nos pages Vie du Club et les livres des Papous pour en savoir un peu plus sur les activités des membres de notre petite bande. Et oui, en dehors des Papous, ils ont aussi une autre vie. Au revoir, dans quelques instants, c'est Tire ta langue sur France Culture par Antoine Perrault. Passez un très beau dimanche à l'écoute de France Culture.